vous avez bien lu ce titre. Je vais ne pas parler aujourd'hui de burn-out, mais bien de bore-out, son petit copain qui est trop bien méconnu à mon sens. Dans le podcast du jour, nous allons découvrir qu'est-ce que le bore-out, quels sont les premiers signes de vos salariés, pourquoi c'est un mal qu'il ne faut pas négliger et surtout, je vais vous donner un remède puisque comme tout mal, il y a un remède que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans votre entreprise. Je ne vous en dis pas plus.
Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecrue.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés.
On va commencer par une définition. Le burn-out, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est l'épuisement professionnel par l'ennui. L'ennui au travail, vous avez bien entendu. Vous connaissiez le burn-out, qui est l'épuisement professionnel par un excès de travail. Le corps s'en vient à se mettre, en mode d'hibernation pour sa survie. Et bien là, c'est le contraire. Qui pourrait le croire que l'on peut s'ennuyer au travail à tel point d'en être fatigué ? Et bien oui, c'est des choses qui arrivent d'ailleurs tous les jours. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote dans le tram. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous raconte une anecdote, ça s'est passé dans le tram. Donc il y avait une jeune personne qui était en train de parler de sa première journée de travail. Et ça, je pense que je ferai un podcast sur la bonne impression à donner sur le premier jour de travail d'un stagiaire, d'un salarié, d'un freelance, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça va déterminer si la personne aura envie de venir travailler avec vous. Mais là n'est pas la question. Donc cette personne, c'était son premier jour de travail et elle disait déjà qu'elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait dans son travail alors que c'était son premier jour. Pour elle, les objectifs n'étaient pas assez intéressants. Elle faisait des choses dont elle avait déjà connaissance. En fait, elle était infirmière et elle se retrouvait à faire la toilette, donner des médicaments, donner le repas et coucher les personnes âgées. C'est pas quelque chose qui l'a stimulé, c'est pas quelque chose qui l'intéressait, il n'y avait pas de son technique, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait rien qui pouvait lui donner envie de rester et le niveau d'exigence était beaucoup trop faible par rapport à ses attentes. Comme quoi, il y a des personnes qui ont besoin de challenge et pour lesquelles l'ennui peut arriver vite. Alors peut-être que vous ne me croyez pas encore, mais lorsque vous êtes en passe d'avoir un burn-out à votre travail, en passe de commencer à vous ennuyer, eh bien, les salariés vont présenter plusieurs signes avant-coureurs. C'est un peu comme le burn-out, en fait. Je vais vous en citer juste quelques-uns pour que vous ayez un peu en idée ça dans la tête. Par exemple, ça peut être la personne qui n'est pas du tout stimulée intellectuellement par son poste. Et en fait, on retrouve tout à fait ce que je viens de vous donner comme exemple. Ça va être la personne qui ne ressent aucun stimuli quelconque. Elle fait un travail qu'elle sait faire, sauf qu'elle a besoin de plus de challenge. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas beaucoup de choses à faire. Eh bien oui, ça existe. On vous donne du travail et en réalité, le travail que l'on vous donne ne compte pas les 35 heures pendant lesquelles vous avez à produire. Donc je peux vous dire que quand vous avez à regarder vos collègues de droite à gauche à droite et que vous avez envie de travailler, parce que oui, hein, ça existe, hein, des salariés qui ont envie de travailler, hein, et des personnes qui ont envie de travailler aussi, il y a beaucoup d'employeurs qui caricaturent « il n'a pas envie de travailler » ou « il est parti trop tôt » ou « il n'a pas fait ses heures », ouais, mais d'accord, mais à quelle heure il est arrivé en fait ? Ou à quelle heure il est parti la dernière fois ? Donc arrêtons de caricaturer certaines choses et reconcentrons-nous sur l'essentiel. Ça peut être aussi le sentiment de se sentir inutile. Ça peut arriver assez souvent. Inutile à sa tâche, inutile à son poste, inutile à ses fonctions, de ne pas trouver de sens à ce qu'on fait. Donc là, on va présenter les premiers signes, j'allais dire, du burn-out. Si je vais vous en citer juste quelques-uns comme ça, sans spécialement les commenter, une personne qui est en train de perdre ses compétences, une personne qui va avoir le sentiment d'être un parasite pour la société, une personne qui va se sentir mal d'être payée à ne rien faire, une personne qui va être anxieuse, fatiguée, presque déprimée par cet ennui au travail. Voilà, ça c'est tous les signes qui peuvent vous montrer que votre salarié va commencer à avoir un burn-out. Sachant que c'est un ressenti, j'allais dire, personnel. Et bien entendu, ça sera difficile pour vous d'évaluer ce qui se passe dans la tête de la personne. Mais on en reviendra un peu plus tard sur savoir comment vous pouvez faire mettre ça en place. Il faut que vous sachiez également que 32% des salariés européens, d'après une étude de Stepson, disent qu'ils s'ennuient au travail. C'est pas rien quand même, 32%, ça fait déjà un tiers des salariés européens. Ça commence à faire, est-ce que ce serait pas un nouveau mal qui nous guette? Un nouveau mal, on a beaucoup parlé du burn-out, ce qui est tout à fait vrai, légitime et intéressant de prendre en compte les aspects négatifs qu'il peut y avoir au travail. Mais on a oublié, j'allais dire, son extrême, dont on ne parle pas assez, qui est le burn-out, et dont je pense qu'on stigmatise, parce qu'en fait, peut-être qu'on se dit comment c'est possible d'être épuisé professionnellement par le fait de ne rien faire. C'est pas très valorisé de dire en fait, je suis tellement épuisée à mon travail parce que je ne fais rien. C'est pas valorisé. Hein. Quand on dit je travaille pas, ou je travaille pas bien, ou je travaille peu, de suite, la société nous regarde d'un mauvais œil, alors que si l'on dit on a fait un burn-out, ça sous-entend qu'on a trop travaillé. Et là, bizarrement, la société accepte le fait qu'on est arrivé à un point d'épuisement tel que on a fait un burn-out, en fait. C'est valorisé. L'inverse, pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que je vous parle aujourd'hui du burn-out, pour vous mettre en garde et essayer d'améliorer vos politiques de management, ou tout simplement de mettre une politique de management en place pour voir ces deux extrêmes, qui est le burn-out et le burn-out, et dans une certaine mesure, de ne pas surcharger ses salariés, mais dans une autre, de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas au travail et de leur donner des choses à faire pour qu'ils se sentent valorisés, pour qu'ils se sentent compétents, pour qu'ils sentent qu'ils puissent changer les choses, pour qu'ils se sentent valorisés par rapport au fait de recevoir un salaire et qu'ils ne ressentent pas que c'est quelque chose comme de la cistana par exemple, et qu'ils se sentent tout simplement épanouis. Ça va dans les deux sens. Les deux extrêmes, de façon générale, c'est pas bon, donc on va essayer de trouver un juste milieu. Pour éviter cet état de burn-out, mon conseil, mon remède ultime, c'est fixer des objectifs. Attention, vous allez fixer des objectifs stimulants. C'est super important. La partie qui va être objectif, c'est bien, c'est un bon début, mais vous n'arriverez pas à endiguer complètement le burn-out si vous ne fixez pas des objectifs stimulants. J'attire votre attention également sur le fait que quand je dis stimulant, ça ne veut pas dire infaisable, ça ne veut pas dire que la personne va devoir travailler jusqu'à pas d'heure avec un taux de productivité énorme pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Ça veut dire stimuler quelqu'un pour qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il se sente complètement accompli dans son travail, qu'il se sente valorisé et qui n'est pas justement cette phase d'épuisement. Alors peut-être que actuellement dans votre entreprise, vous ne fixez pas du tout d'objectifs à vos salariés. Eh bien, j'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous faites pour que vos salariés soient motivés, qu'ils aient la pêche de venir travailler avec vous? Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, si vous voulez bien me le mettre en commentaire du podcast, donc vous tapez tout simplement le titre du podcast que vous êtes en train d'écouter, vous allez tomber sur la page du blog, puisque tous les podcasts en fait que je publie, ils sont sur SoundCloud, iTunes et également sur le blog. Donc vous tapez le titre du podcast que vous êtes en train d'écouter, vous allez tomber sur la page de l'article. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un mail directement via la page de contact pour me dire comment, si vous ne fixez pas d'objectif à vos salariés, comment est-ce que vous faites en sorte qu'ils soient motivés et qu'ils aient envie de venir travailler avec vous tous les jours dans un épanouissement personnel. C'est une vraie question, hein. Comment est-ce que vous faites? Ça m'intéresse vraiment. Pour moi, fixer des objectifs, ça va être un premier pas. Donc si vous ne fixez pas actuellement des objectifs, je vous conseille vraiment d'être attentif à ce qui va suivre parce que ça pourrait peut-être vous aider et vous permettre d'avoir une vision plus élargie et de peut-être faire des connexions. Donc écoutez bien ce qui va suivre. Pourquoi des objectifs ? Quand vous ne fixez pas des objectifs, vos salariés ne vont pas être motivés. Peut-être il va y avoir même une démotivation. Ils ne vont pas spécialement être impliqués dans l'entreprise et surtout ils ne vont pas trouver de sens à leur travail. Pour moi, mettre des objectifs, ça va permettre de maintenir le cap, d'aider dans la prise de la direction, de également gérer les priorités. Si par exemple vous avez un très gros projet en cours pour les 6 prochains mois et que par exemple de façon mensuelle et également de façon hebdomadaire, vous ne fixez pas des objectifs. Comment est-ce que vos salariés peuvent gérer toutes ces priorités puisque eux, à la fin, ne vont avoir que l'objectif final, l'objectif qui va être dans les 6 mois, l'objectif qu'il faudra atteindre. Par exemple, peut-être, un truc vraiment au pif, le lancement d'une application. Si vous avez, par exemple, le lancement d'une application, vous dites, voilà, on a pour objectif de faire ça. Si vous ne segmentez pas les objectifs de façon trimestrielle, de façon mensuelle, puis de façon hebdomadaire, comment est-ce que vos salariés peuvent s'organiser ? C'est le flou artistique. A priori, si c'est le lancement d'une première application, ils n'ont pas les compétences organisationnelles, ils n'ont pas les compétences pour savoir comment est-ce qu'ils vont arriver d'un point A à un point B. Ça va être votre rôle, du coup, de les aider dans cette tâche et de leur donner des objectifs. Les objectifs, du coup, vont leur permettre de savoir quelles sont les tâches qu'ils ont à faire et dans ces conditions, de les gérer au mieux pour qu'ils puissent atteindre les objectifs que vous leur avez fixés. Donc, pour moi, s'il n'y a pas d'objectif, je me répète, il y a une mauvaise gestion des priorités, qui va peut-être induire du coup un burn-out, l'un est lié en fait. Si vous ne fixez pas du tout d'objectif, c'est ce qui va se passer aussi dans le cas d'un burn-out. Par exemple, très mauvaise, ça peut être mauvaise prise de décision, ça peut être un surtravail aussi, et ça peut être le fait qu'on n'arrive pas du tout à se détacher de son travail. Donc, donner des priorités pour que la personne sache ce qu'elle a à faire et qu'elle s'arrête aussi au bon moment. On n'est pas dans une idée de je vais travailler 50, 60, 70 heures par semaine et on n'est pas dans une idée je vais travailler 10 heures par semaine alors que mon temps de travail c'est 35 heures. Si mon temps de travail est 35 heures, je dois être occupée 35 heures sans surmenage quelconque mais également sans m'ennuyer à mon travail. Donc ça, c'était pour le pourquoi je vais fixer des objectifs, dans le cas d'un burn-out, mais également d'un burn-out. Les deux sont liés. Ensuite, j'en viens au fait, plus spécifiquement, du burn-out. Là, vous allez fixer en fait des objectifs qui vont être stimulants. Si j'avais été, par exemple, dans le cas d'un burn-out, j'aurais dit fixer des objectifs atteignables. Parce qu'a priori, ce qui va poser problème, c'est qu'on va fixer des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop élevés. Donc la personne va se sentir obligée, ce qui est normal, de faire plus pour arriver au résultat attendu, qui est inatteignable en fait. D'où la grande majorité des burn-out qui se déclenchent comme ça. On fixe des objectifs ou des choses qui ne sont pas du tout atteignables dans les délais. Et donc du coup, la personne se retrouve en surcharge, surcharge de travail. A l'inverse, quand on vous est dans le cas d'un burn-out, là vous allez fixer des objectifs stimulants. Stimulants, et je rajouterai des objectifs stimulants et atteignables. Pour, d'une part, vous sortir du burn-out, donc l'ennui professionnel, et d'autre part, pour ne pas être dans un burn-out. Et donc fixer des objectifs qui vont être atteignables. L'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi est-ce que vous allez fixer des objectifs qui sont dits stimulants ? À mon sens, lorsque vous allez donner des objectifs, c'est un bon début. C'est un bon début, mais ça ne fait pas tout. Si vos objectifs ne sont pas stimulants, ça revient à la même chose que si vous ne donniez pas d'objectifs tout court. Parce que tout simplement, vos salariés, peut-être, avec les objectifs que vous leur avez donnés, ne seront pas stimulés. Peut-être que les objectifs que vous leur avez donnés, il n'y a pas beaucoup de travail, en fait, à faire. Peut-être qu'avec les objectifs que vous leur avez donnés, encore une fois, ils vont se sentir mal d'être payés à ne rien faire. Peut-être qu'ils vont même être en train de perdre des compétences parce qu'ils n'auront pas assez de choses à faire qui vont les stimuler. Donc l'objectif de ça, ça va être de stimuler vos salariés pour qu'ils se sentent motivés, pour que vous leur donniez du sens à venir travailler avec vous, mais aussi pour qu'ils se sentent bien au travail. Ça, c'est une notion qui va être très très importante pour moi. C'est bien motiver ses salariés, c'est génial. Tous les employeurs veulent que leurs salariés soient motivés, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, etc. Mais vous ne pourrez pas motiver vos salariés si eux-mêmes ne se sentent pas bien au travail. Et cette question du bien-être est très importante. Lorsque vous stimulez vos salariés, ça va vous permettre également de façon indirecte de retenir vos talents. Pourquoi ? Parce que souvent, on pense qu'on retient quelqu'un par un moyen financier, en lui faisant une augmentation de salaire, en lui donnant une prime, etc. Ce n'est pas la seule façon de retenir quelqu'un. Si vous êtes face à un talent, le talent automatiquement va avoir des aspirations professionnelles, bien sûr financières, mais surtout professionnelles, avec une volonté de gravir les échelons, avec une volonté de se réaliser soi-même dans son travail, avec une volonté d'apprendre. Et ça passe du coup par des objectifs qui vont être stimulants. Si vous ne fixez pas des objectifs qui sont stimulants, la personne qui est talentueuse, qui a du talent et ce pourquoi vous l'avez recrutée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va préférer quitter votre entreprise pour rejoindre peut-être une entreprise avec le même niveau de salaire, mais surtout avec des objectifs qui vont la challenger, qui vont la stimuler. J'en reviens du coup à l'exemple de mon infirmière. Ça va vous permettre, du coup, également, hein, c'est pas négligeable, mais de faire en sorte que vos salariés n'aient pas envie de partir, et ce, dès le premier jour, parce que vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais il y a un pourcentage de salariés énorme qui, dès le premier jour de travail, a déjà envie de quitter son entreprise. Donc si vous revoyez peut-être vos objectifs, pour fixer des objectifs, ce serait une bonne chose. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que ça va éviter des problèmes de maladie. Et ouais, les personnes qui souffrent de burn-out sont deux fois plus susceptibles d'avoir des accidents cardiovasculaires que celles qui sont stimulées par leur emploi. Ça, c'est une étude anglaise, une étude de burn-out to death qui a été édité. Donc voilà, au même titre en fait que le burn-out, on peut être affecté par des problèmes de santé du burn-out. J'en viens à la conclusion de ce podcast. Faites attention à vos salariés, que ce soit dans un cas d'excès de travail, burn-out, ou dans un cas d'épuisement professionnel lié à un ennui au travail. Essayez de mixer et de donner des objectifs qui vont être stimulants, mais également qui vont être atteignables. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, vous pourrez écouter ce podcast sur iTunes, SoundCloud et également le blog. Je vous remettrai également dans l'article des descriptions concernant le burn-out, des liens qui pourront vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.
Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc jeudi. En attendant, pensez à vous abonner à la page Facebook Ma Future Recrue. À bientôt !